Good Morning Business, le grand entretien.
Le grand entretien ce matin, je reçois Emmanuel Moulin. Bonjour Emmanuel Moulin, gouverneur de la Banque de France dans la matinale de l'économie. Alors j'ai plein de sujets, plein de sujets à discuter avec vous en 9 minutes. On va essayer d'être clair et d'être concis. On commence par la réunion de la BCE hier. La BCE qui a maintenu ses taux inchangés. C'est pas une surprise. Christine Lagarde a commencé à dire qu'il y avait certains gouverneurs qui parlaient de hausse de taux. On parlait ce matin en réalité de ce numéro d'équilibre. Équilibriste incroyable que doit jouer en ce moment la BCE et toutes les grandes banques comme celle-là dans un monde si déséquilibré.
Oui, c'est un monde où les choses évoluent au jour le jour, évidemment, et nous avons décidé de maintenir nos taux directeurs, nos principaux taux directeurs. Pourquoi ? Parce que au mois de juin, nous avions augmenté nos taux. Nous étions passés de 2 à 2,25. C'était une décision qui était prise pour faire face à la poussée de l'inflation, et en particulier à l'inflation énergétique, et pour éviter que celle-ci se propage à l'ensemble du panier de consommation, au prix alimentaire, au prix des services. Nous avions pris cette décision. Et puis, au cours du mois de juin, il y a eu un cessez-le-feu, une baisse du prix du pétrole, très rapide, une sorte de contre-choc pétrolier. On a vu l'inflation qui a légèrement diminué, notamment au mois de juin dans la zone euro, et donc c'était plutôt des bonnes nouvelles. Et puis le conflit est reparti, et donc nous sommes un petit peu revenus finalement à la situation de juin, et donc la hausse des taux que nous avions faite au mois de juin se justifiait pleinement, et c'est pour ça que nous avons décidé de maintenir nos taux cette semaine.
Vous parliez de l'énergie, Christine Lagarde s'est dite inquiète hier de l'ouverture d'un deuxième front au Moyen-Orient entre l'Arabie Saoudite et les rebelles houthis destinés à bloquer le passage des hydrocarbures. Ça se ressent évidemment tout de suite sur le baril de pétrole qui dépasse les 100 $. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce qu'on peut aller vers une sorte de crise comme celle de 2022 ?
Ben c'est une crise, effectivement, c'est inquiétant, puisque les routes du pétrole s'étaient détournées effectivement vers le golfe Persique, et donc et vers aussi le canal de Suez, qui permet à l'Arabie Saoudite d'évacuer son pétrole et d'exporter son pétrole. Et donc, évidemment, s'il y a plus de tensions, il y a plus de risques sur le prix du pétrole. On l'a vu, puisqu'il est monté autour de 100 $. Donc, c'est une situation que nous regardons, que nous surveillons avec beaucoup d'attention. Et effectivement, le risque, c'est que cette augmentation du prix du pétrole se traduise sur les autres prix, notamment sur les prix des services, sur les prix des transports. Et c'est ça que nous voulons éviter. C'est une diffusion trop large de cette inflation énergétique. Et donc, on va regarder l'ampleur du choc et sa persistance, surtout.
Ce qui nous inquiète aussi, et on en a parlé beaucoup cette semaine, c'est l'OAT, le taux d'emprunt des États à 10 ans, qui a brièvement franchi les 4%. Est-ce que ces 4%, c'est une ligne rouge, d'après vous ?
Non, ce n'est pas une ligne rouge, mais effectivement, on constate une hausse générale, d'ailleurs, des taux longs. C'est lié aux perspectives d'inflation et puis aux incertitudes qui existent dans le monde d'aujourd'hui. Il n'y a pas un seuil à partir duquel ça crée une difficulté. C'est plutôt la tendance. Et effectivement, la hausse des taux, elle pèse sur la charge d'intérêt et donc elle réduit les marges de manœuvre budgétaires. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'avoir une stratégie crédible de réduction des déficits et de réduction de la dette.
Justement, vous dites que les autres pays sont concernés, mais nous sommes en négociation de budget, en instabilité politique, en année présidentielle, avec des très grands chantiers, vous l'avez dit, la transition écologique, l'intelligence artificielle, le quantique. Comment on fait pour résoudre cette équation qui paraît comme ça, dite comme ça, presque impossible ?
Alors, l'instabilité politique, c'est pas une caractéristique uniquement française. Ça existe dans d'autres pays européens. Pourtant, ils arrivent à trouver des consensus. On l'a vu en Allemagne avec un accord entre la droite et la gauche pour notamment réformer les retraites. Et donc, il y a certainement une voie, si on regarde nos partenaires européens, pour trouver des accords. Et de toute façon, il y aura un grand rendez-vous démocratique l'année prochaine.
Oui.
Et donc, entre-temps, il est très important, comme l'a dit le Premier ministre, d'avoir un budget. Parce qu'on ne peut pas fonctionner sans budget pendant tout un semestre en 2027.
Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'économie française dans ce contexte? Est-ce qu'il y a des secteurs que vous surveillez particulièrement? On sort d'une période de 2 mois de canicule avec 3 épisodes très importants. Les entreprises ont été très résilientes, elles ont continué à produire dans ces circonstances. Quel est votre regard là-dessus?
Alors, nous avons constaté une bonne résilience de l'économie française, notamment au moment de la canicule, avec des entreprises qui ont changé leur organisation pour s'adapter à la canicule. Et donc, nous avons eu des enquêtes, notamment des enquêtes mensuelles de conjoncture, qui étaient un peu meilleures que ce qu'on avait envisagé, en particulier au mois de juin et pour les prévisions du mois de juillet. On va voir comment ça se traduit sur la croissance au deuxième trimestre. On aura les chiffres le 30 juillet. Nous, on estime que la croissance pourrait être à 0,2, alors que il y a quelques semaines, on était plutôt plus pessimiste. Donc, une bonne résilience de l'économie française, mais évidemment dans un environnement qui est extrêmement volatile, avec une augmentation du prix de l'énergie, avec de nouveau des tarifs. Alors, pour l'Europe,
notamment les droits de douane, vous parlez?
Je pense aux droits de douane. Évidemment, pour les droits de douane, alors pour l'Europe, ça ne va pas changer grand-chose parce qu'on a l'accord de Tonbury et qui, normalement, devrait être respecté par Donald Trump. Mais évidemment, ça crée encore de l'incertitude sur le commerce mondial. Et ce n'est pas favorable, évidemment, à la croissance.
Rappelez-nous votre rôle à vous, parce que là, on parle beaucoup de la BCE. On le dit, hein, c'est un monde globalisé. Donc, évidemment, il faut regarder un peu tout ce qui se passe partout dans le monde. Votre rôle à vous, dans ce contexte, la Banque de France, dans des circonstances effectivement aussi volatiles, justement?
Alors, notre rôle à nous, il est triple. Nous avons d'abord, nous participons évidemment à la décision sur la politique monétaire. Je suis membre du Conseil général de la Banque Centrale Européenne. C'est ce que nous avons fait hier. Deuxièmement, nous sommes en charge de la stabilité financière et en particulier de la résilience des banques et des assurances. Je peux vous rassurer de ce point de vue-là, elles sont bien capitalisées et elles sont très solides.
Les résultats sont bons.
Les résultats sont très bons. Et troisièmement, nous sommes au service des citoyens et des entreprises. Nous accompagnons les entreprises dans leur stratégie financière. Nous les notons, nous les cotons, on dit, c'est la cotation des entreprises. Et puis nous aidons nos concitoyens, notamment quand ils font face à des difficultés financières. Nous gérons les procédures de surendettement pour le compte de l'État, le droit au compte aussi quand nos concitoyens ne trouvent pas de banque, et donc nous les aidons à en trouver une. Et donc ça, c'est une mission qui est très importante et qui s'exerce sur tout le territoire grâce aux implantations de la Banque de France.
Sur cette fin d'été, pour ceux qui veulent acheter dans l'immobilier, comment pensez-vous que les banques vont se comporter? Jusqu'à maintenant, il y avait encore des offres intéressantes sur les taux notamment. Est-ce que ça va continuer à la rentrée, des conditions qui peuvent permettre d'acheter un appartement?
Alors, c'est plutôt les banquiers qui pourront vous répondre. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que il y a à peu près une bonne dynamique du crédit immobilier. Il n'y a pas de contrainte, je dirais, sur le crédit immobilier. Les taux restent à des niveaux raisonnables. Et puis, il y a des offres des banques qui demeurent. Donc, il n'y a pas de restriction, je dirais, sur le crédit immobilier. Il y a plus un sujet de demande, d'ailleurs, qu'un sujet d'offre.
J'ai une toute dernière question concernant l'euro numérique qui est enfin lancé. J'aimerais savoir ce que vous en pensez et si vous pouvez nous dire à quoi il va servir pour nous, peuple français, qui est déjà extrêmement bien servi en matière de services bancaires, plus que d'autres pays en Europe d'ailleurs.
Non, c'est vrai. Mais ce que nous constatons, c'est que on utilise de moins en moins les billets. Alors, ça restera une forme de monnaie qui sera disponible. Hein. On a hier dévoilé un projet de nouveau design des billets en euros. Mais vous pouvez pas payer sur Internet avec un billet. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est adapter la monnaie fiduciaire au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un monde qui est numérique. Et c'est ça, l'euro numérique, c'est une sorte de billet numérique que vous pourrez utiliser, comme vous utilisez un billet pour acheter votre pain, vous pourrez utiliser l'euro numérique pour payer sur Internet ou pour régler des achats chez des commerçants.
Merci Emmanuel Moulin d'être venu ce matin, gouverneur de la Banque de France dans la matinale de l'économie.